Merci de m'avoir accueilli. Mais en fait, je dois être l'un des plus anciens chrétiens de cette église. Mais de mon temps, les réunions avaient lieu quai de la Fosse. Mais depuis le temps, je ne reconnais plus personne. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tous morts. Rue de la Fosse, c'était au début des années 40, pour tout vous dire. Oui, il y en a très peu qui suivent. J'aimerais lire trois passages dans la Bible aujourd'hui. Le premier dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et au verset 36, cette parole de Jésus dans sa prière qui disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le deuxième passage, nous le trouverons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4 et au verset 6. C'est une parole de l'apôtre Paul qui explique « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et le dernier passage, nous le lirons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. » Le premier de ces passages nous transporte dans le jardin des Oliviers. Jésus est à Gethsémané. Il fait nuit. La lune de Pâques, encore pleine, projette sa lueur blafarde au travers des nuages. Avec Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur s'est éloigné du reste de ses disciples d'environ un jet de pierre pour prier. Frayeur, angoisse, s'abattent sur son âme, qui devient triste, nous dit l'Évangile. Triste jusqu'à la mort. Bientôt, il se jette face contre terre, bien qu'il ne soit pas encore crucifié. Sa sueur goûte à terre comme des gouttes de sang. La lutte est dure, le combat est terrible. Malgré la présence d'un ange venu pour le réconforter, tandis que ses disciples eux-mêmes sont endormis. Celui qui n'a jamais péché sent maintenant peser sur lui le poids des péchés de toute l'humanité rassemblée, et comme un soldat mourant sur le champ de bataille adresse ses dernières paroles à sa mère, Jésus adresse l'une de ses dernières prières à son Père par ces mots « Abba, Père ». Bien qu'une quinzaine de passages du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament plutôt, nous parlent de Dieu comme étant un père pour Israël, jamais avant Jésus, personne n'avait eu l'idée de s'adresser à Dieu, le Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant de l'Ancien Testament, comme un père. Tout en plus, parlait-on d'Abraham comme notre père Abraham, je leur ai fait connaître ton nom, venait de dire Jésus dans la chambre haute, avant de regagner Gethsémané. De quel nom de Dieu s'agit-il? S'agit-il de ce nom donné à Moïse devant le buisson ardent? Nom difficile à traduire, que généralement nos Bibles traduisent par « Je suis celui qui suit », que d'autres ne traduisent pas, mais retranscrivent selon les sonorités de l'hébreu Yahvé ou Jéhovah, selon la vocalisation que l'on veut donner. Par respect pour ce nom imprononçable de Dieu, eh bien, les descendants d'Abraham, encore de nos jours, n'osent toujours pas le prononcer, ni encore moins le traduire, et le remplacent généralement par Hachem ou Adonai. Quel est donc ce nom de Dieu révélé par Jésus ? Je leur ai fait connaître ton nom. Ce nom de Dieu, c'est celui de Père. C'est un nom extraordinaire qui établit entre le croyant et celui qui est dans le ciel une relation extraordinaire. Et là, alors qu'il est à Gethsémané, Jésus va s'adresser à son Père, non pas comme il l'a fait jusqu'à présent, mais il va retrouver sa langue maternelle, l'araméen de tous les jours, pour s'adresser à son Père céleste. Selon les dictionnaires araméens, Abba veut dire père. Il y a des spécialistes partout, y compris en araméen. Et selon d'autres, Abba veut dire mon père, veut dire notre père, veut dire... Il y a toutes sortes de gens qui s'y connaissent et qui sont capables de nous dire ce que ce mot araméen veut dire. Moi, je me suis tout simplement demandé, mais pourquoi ? Le Saint-Esprit a inspiré l'auteur de l'évangile de Marc, écrit en grec, à mettre un mot en araméen. Quand on écrit en grec, comme celui qui a rédigé l'évangile l'a fait, pourquoi placer un mot araméen ? Pourquoi ? Pourquoi, d'autant plus, si ce mot Abba, araméen, veut dire père, pourquoi rajouter par la suite père ? Pour quelle raison utiliser ce mot araméen ? Tout simplement parce que ce mot Abba est difficile à traduire, ainsi que nous l'avons vu dans toutes ces explications de gens un peu savants. Et en fait, le mot Abba est tout simplement la transcription des sons araméens que l'on a mis en grec. C'est un mot aussi intraduisible que le mot de Dieu révélé au buisson ardent, « Je suis celui qui suis », c'est un mot qui est très difficile à traduire. Une explication bien plus naturelle au sujet de l'araméen de ce mot « Abba » se base sur le fait que dans toutes les langues du monde, l'un des premiers mots utilisés par les bébés qui commencent à parler est un mot du genre « tata, gna gna, gna ma 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 ». C'est un genre de gazouillis. Et dans toutes les langues du monde, l'un des premiers mots que les enfants commencent à parler, c'est soit « mama »,« papa », »,« tata », »,« dada ». Et ça, c'est l'araméen. Eh bien, c'est valable dans toutes les langues du monde, que tous les parents peuvent comprendre sans consulter aucun livre, dictionnaire ou grammaire. Et voyez-vous, dans la prière de Jésus à Gethsémané, Jésus va utiliser un mot de base du vocabulaire fondamental international de tous les petits-enfants du monde entier, y compris le mot que nous aussi nous avons utilisé lorsque nous avions cet âge où nous commencions à gazouiller. Papa, dit en araméen ou dans n'importe quelle langue. C'est ce genre de mot que Jésus a utilisé dans sa prière. Prière, oui. Mais il était remarqué peut-être la nature, la dimension de la demande de Jésus dans sa prière à Gethsémané. L'évangile de Marc que nous avons lu nous dit au chapitre 14, verset 36, Jésus disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus va prier pour, non pas que cette coupe s'éloigne de lui, oui, dans un sens, mais surtout, non pas ce que Jésus veut, mais ce que ce Père qu'il appelle Abba, comme un tout petit enfant, qui ne sait à peine parler, ce que toi tu veux. C'est vrai qu'il était possible à Dieu le Père d'éloigner cette coupe amère que devait boire Jésus, coupe qui est l'image de tous les péchés des hommes, péchés dont le Christ devait recevoir le châtiment en mourant sur la croix. Mais cela ne veut pas dire pour autant que si Dieu le Père était capable d'éloigner la coupe, la volonté de Dieu c'était d'éloigner cette coupe, c'était que le Christ ne meure pas sur la croix, c'était que... Non. La prière de Jésus est une prière très, très intense. Et lorsqu'on la comprend bien, elle ne consiste pas à aligner la volonté du Père sur ce premier refus de Jésus. Éloigne de moi cette coupe. Moi, je ne veux pas. Alors éloigne. Fais quelque chose dans ce sens. Non. La prière de Jésus consiste à aligner la volonté de Jésus sur celle du Père. Cette coupe, ah, c'est dur. Si tu pouvais l'éloigner, non, ne l'éloigne pas. Je vais faire ce que toi tu veux. Ce niveau de prière, accepter de faire la volonté du Père, est difficile à atteindre pour les croyants. En fait, ce n'est pas le genre de prière d'un enfant. Il y a une différence entre un bébé qui sait à peine parler, qui gazouille dans le style papa tata tata, et un enfant. Vous savez que l'un des premiers mots d'un enfant, c'est non, non, finis ton assiette, non, fais ceci, non, fais cela, non. C'est vrai qu'à Nantes, vous connaissez peut-être pas ce genre de réaction des enfants. Mais là, je parlais au niveau de la vie chrétienne. Beaucoup d'enfants de Dieu, et là, tout le monde devient silencieux. Disons, quelques enfants de Dieu, au lieu de dire « Oui, 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 Seigneur, je le fais », disent « Non, Seigneur, non, non, ma volonté, c'est ça, Seigneur, fais comme ci, fais comme ça ». Exauce ma volonté, fais ce que je te demande. La prière de Jésus à Gethsémané, ce n'est pas la prière d'un enfant qui sait dire non à son père. C'est la prière d'un nouveau-né, d'une nouvelle créature, dira Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, d'un croyant qui sait à peine parler, d'un croyant qui ne sait pas encore dire non à son Père. Pour qui, puisque Dieu le dit, alors, je vais le faire. Ah, mes frères et sœurs, que notre Père céleste nous donne de lui obéir de cette manière. Non plus comme des enfants qui se prennent pour des grandes personnes, mais comme des petits-enfants qui n'ont pas encore appris à dire non, non, Seigneur. Le deuxième passage, dans l'Épître aux Galates, nous allons le relire au chapitre 4 et au verset 6. Nous dit, c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba ». Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Le mot Abba se retrouve sous la plume de l'apôtre Paul. dans sa lettre aux Galates. Les Galates étaient les descendants de quelques tribus gauloises victorieuses qui s'étaient installées dans l'actuelle Turquie actuelle. Nos ancêtres les Gaulois. Dites donc, ce serait bien que les habitants de l'actuelle Turquie reconnaissent que bien nos ancêtres les Gaulois, enfin pour certains, parce que moi je ne sais pas trop si dans ma généalogie j'ai eu des Gaulois comme ancêtres. En tout cas, c'était des Galates qui ne connaissaient rien à l'Ancien Testament que des docteurs judéo-chrétiens venus de Jérusalem avaient influencé en leur expliquant qu'ils ne pouvaient être sauvés qu'en respectant les rites du judaïsme. Il fallait être circoncis, il fallait, pour les hommes, il fallait respecter ces traditions que nous donne l'Ancien Testament. La réponse de l'apôtre Paul est claire. En fait, dans l'Église, dit l'apôtre, Dieu ne favorise pas plus les Juifs que les non-Juifs, parce que dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 8, dans un passage qui précède notre lecture, l'apôtre dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, car nous sommes tous un en Christ. » Paul continue dans son épître et invite les croyants à ne pas se mettre sous le joug d'une servitude que les Hébreux n'ont pas su respecter, c'est-à-dire sous tous les commandements de la loi de Moïse que les Hébreux n'ont pas su mettre en application. Et comme sorte de conclusion, l'apôtre donne ce verset de notre lecture. Puisque le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs et qu'il crie « Abba, Père », c'est la preuve que le chrétien n'est pas un observateur de la loi de Moïse, où le mot est très fort dans l'écrit de Paul, un esclave de la loi de Moïse, mais qu'il est un fils de Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, dit l'apôtre, mais tu es fils. Lorsqu'il commence à parler, un bébé ne connaît rien du monde qui l'entoure. S'il a des frères et sœurs, il ne les connaît pas. Il ne sait pas plus l'adresse à laquelle son père habite que son nom de famille. Il sait seulement que celui qu'il appelle papa, celui qu'il voit s'approcher de lui, c'est quelqu'un qu'il aime. Et il y a un lien qui s'établit entre ce petit enfant et son père. C'est un lien d'amour, un lien d'affection. Il en est de même entre nous et Dieu. Il existe une certaine relation, une certaine inclination d'amour que seul le mot de Abba, papa, peut rendre. Entre nous et Dieu, il y a quelque chose qui est là, que seul ce mot peut rendre avant que Dieu ne soit notre Père. Il doit être notre Papa. Il y a dans ce mot Papa une certaine intimité, une certaine proximité que le mot de Père ne peut rendre. Jésus disait, si vous devenez comme des enfants, comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et par cela, Jésus comparait l'entrée dans le royaume à une nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit, la naissance d'en haut. Et de même que pour chaque homme, naître physiquement sous-entend qu'il a été engendré par un père selon la chair. Pour naître spirituellement, nous devons être engendrés par un autre Père, celui qui est dans les cieux, notre Père céleste. Avant que Dieu ne soit notre Père, il doit être notre Papa. C'est notre Papa qui nous a, notre Papa selon la chair, qui nous a vus venir au monde, qui nous a donné notre première nourriture, qui nous a entendu prononcer nos premiers mots, qui nous a aidés à faire nos premiers pas, qui a pensé nos premières bosses, qui a séché nos premières larmes. Abba, Papa, c'est le Dieu du balbutiement de la vie chrétienne, des premiers pas, des premiers essais. C'est le Dieu de notre éveil spirituel. Abba, Papa, c'est aussi le Dieu auquel nous ressemblons, comme chaque bébé ressemble à son papa ou à sa maman. Cependant, ce n'est pas par la forme du nez, la couleur des yeux, la couleur des cheveux que nous ressemblons à notre Père céleste. C'est par la nature et la qualité des sentiments qui sont dans notre cœur, sentiments qui était en Jésus-Christ, sentiment de paix, d'amour, de joie, de pardon, toutes ces choses qui nous font ressembler à notre Père céleste. Abba ou Papa, pour le croyant, peut exprimer toute cette intimité, toute cette familiarité qui existe entre un père et son enfant. Même lorsqu'il a grandi, un enfant appelle toujours son père papa. J'avais beau avoir plus de 60 ans, j'appelais toujours le mien papa, dans l'intimité. Mais dans l'église, quand je devais parler de mon père, puisqu'il était pasteur et moi aussi, je ne disais pas « papa m'a dit de vous dire ». Non, je parlais de mon père. Bon, c'est une manière publique. Papa, c'est pour l'intimité. Papa, c'est pour lorsqu'on est seul avec son père. Père, c'est lorsqu'on est en public. Sauf dans certaines familles, peut-être un enfant appelle rarement son papa père, et encore moins par ses noms de fonction ou ses titres honorifiques. Imaginez-vous le fils ou la fille d'un dirigeant de ce monde s'adressant en privé à son père, lui dire « Monsieur le président de la République, Monsieur le directeur de telle société internationale. » Non. Quelle que soit la position sociale du père en question, ben, le fils, la fille va appeler son père papa. Par contre, le chef du personnel, le plus grand actionnaire, ne va pas appeler le responsable, s'il n'est pas son père, papa. On va l'appeler monsieur le directeur. Papa, c'est réservé pour les enfants. C'est un privilège. Tout le monde ne peut pas appeler n'importe qui papa. Dans une famille d'il y a 2000 ans, il pouvait y avoir certains serviteurs, parfois très, très qualifiés, plus qualifiés que les enfants de la maison. Il arrivait parfois que l'enfant de la maison ne soit pas à la hauteur de ce que son père avait imaginé qu'il aurait pu devenir. Il y a des enfants qui tournent bien, et d'autres, dirons-nous, qui tournent moins bien, mais qui font le désespoir de certains parents. Mais jamais le serviteur d'une telle maison ne se serait avisé d'appeler le maître de la maison papa. le gamin en question, ou la gamine, ou le jeune homme, qui aurait pu faire toutes les bêtises du monde, dilapider, c'est lui qui, le seul, c'est lui qui pouvait appeler le maître de la maison papa, peu importe ce qu'il avait fait. Le papa, c'était toujours son papa. Et vous savez, à tout instant, eh bien, l'enfant pouvait entrer dans le bureau, dans... même si le père en question était en grande conversation, un petit enfant, il ouvre la porte. « Papa, j'ai besoin. » C'est ça le privilège d'un enfant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, alors que Christ a été fidèle comme fils, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 3 dans les versets 5 et 6. Imaginez, jamais Moïse, Abraham, David, Élie et tous ceux que vous pourrez trouver, tous ces personnages extraordinaires de l'Ancien Testament, tous ces gens-là n'ont jamais appelé Dieu papa. Ils avaient un nom, c'était l'Éternel, c'était le Dieu d'Israël, c'était... mais jamais ils ne se sont permis d'appeler Dieu papa. Je pense que nous avons besoin de réaliser le privilège des enfants de Dieu que nous sommes, qui peuvent sans crainte se présenter devant le trône de la grâce sans jamais déranger leur Père Céleste. Et vous savez, notre Père Céleste, il en a toutes sortes de choses à faire, encore plus qu'un grand de ce monde, qu'un PDG, qu'un président de... Imaginez toutes ces choses. Il a des anges, des archanges à son service, il règne sur tout l'univers. Et puis nous, si nous réalisons notre privilège, comme un petit enfant, nous pouvons... même sans frapper à la porte de son bureau. Papa, j'ai besoin. Papa, non. Papa, au secours. Nous pouvons sans crainte nous présenter devant lui. Dans la maison où il y avait un enfant, ce n'étaient pas les serviteurs ou les esclaves, c'est le même mot. Mais les fils qui héritaient. C'est pourquoi l'apôtre, dans le passage de l'Épître aux Romains, nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons un héritage. Et notre héritage céleste n'est pas le résultat de nos efforts personnels. C'est le don gratuit de Dieu, comme tout héritage. Qui peut faire, à part dans certaines familles où l'on peut essayer de tirer à gauche ou à droite la couverture pour avoir une part plus importante d'héritage, mais en fait, aucun héritage n'est dû à nos mérites. Et encore moins celui de notre Père Céleste. Voyez ces héros de l'Ancien Testament. Voyez toutes ces personnes qui ont fait des exploits extraordinaires avec Dieu. Au point de vue spirituel, nous ne leur arrivons pas à la cheville. Ce n'étaient que des serviteurs, tandis que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons à notre disposition un héritage céleste, extraordinaire. Sachons l'utiliser. Nous pouvons déjà l'utiliser ici-bas sur terre. Voyez par exemple Abraham, notre père Abraham, pour faire tout ce qu'il a fait, combien de promesses de Dieu a-t-il pu recevoir? Quelques promesses. Tandis que nous, dans la Bible, nous en avons à peu près 3000. 3000 promesses qui sont là à notre disposition. C'est notre héritage, sachons nous en servir, mon frère. Laisse la loi de Moïse et toutes ses obligations, à qui elle s'adresse, mais laisse le Saint-Esprit crier à tes oreilles que tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. Tu n'es pas soumis à cette loi, mais tu as un héritage extraordinaire que déjà, dont déjà tu peux jouir. Tu n'es pas un serviteur, comme tous ces personnages extraordinaires, peut-être de l'Ancien Testament, mais tu es un fils, dont le premier est Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ comme pour frère. Le dernier passage que nous avons lu dans l'Épître aux Romains, nous allons le relire au chapitre 8 et au verset 15, nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit d'adoption, mais un esprit de... Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La vie chrétienne consiste à renoncer à soi-même, à se charger de sa croix et à suivre Jésus. Allez, nous allons dire, il y en a une qui a dit Amen, dites donc, il a du travail votre pasteur. Bon, je répète, on efface. La vie chrétienne consiste à renoncer à soi-même, à se charger de sa croix et à suivre Jésus. Ah, ben, ça va mieux, hein. Mais il y a encore du progrès, hein. Ben, c'est sûr que c'est dur. C'est dur. Et l'apôtre expose les deux manières de vivre sa foi. Il y a ceux qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit et qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, dit le verset 5 du chapitre 8 des Romains. Alors, au verset 15 que nous avons lu, l'apôtre explique que nous n'avons plus à vivre sous la servitude, c'est-à-dire sous l'esclavage, sous la domination de la chair, parce que nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père !» Et à chaque fois que nous avons cette relation entre nous et Dieu, celle d'un nouveau-né et de son Père, alors l'adversaire de nos âmes recule. Il n'aime pas entendre que nous sommes des petits-enfants de Dieu. Et la victoire sur nos épreuves et nos tentations découle essentiellement du fait que Dieu est bien plus proche et bien plus pour nous qu'un père. Il est notre papa. Il est celui qui nous a engendrés et nous sommes à son image. Mais ceci dans la mesure où nous partageons les mêmes relations qui unissaient Jésus à son papa céleste. De même que Jésus, le Fils unique, a été engendré par le Saint-Esprit, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes nés d'eau et d'esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et la preuve en est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, le Saint-Esprit, qui, comme Jésus à Gethsémané l'a fait crier « Abba, Père », nous fait crier aussi par la foi ce cri extraordinaire que Dieu est notre Père, « Abba, Père ». Et quand l'heure des ténèbres nous enveloppe dans les filets de ses tentations, au point de remplir notre âme d'un esprit de servitude au péché, esprit qui nous invite, qui nous incite, qui nous entraîne à vivre selon les pulsions de la chair, souvenons-nous que ce n'est pas un esprit de servitude au péché, ce n'est pas un esprit de soumission, ce n'est pas un esprit de dépendance au péché que nous avons reçu, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Un esprit qui est saint, un esprit qui nous permet, un esprit qui fait crier, qui fait vibrer dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui nous relie, qui nous unit à celui qui est dans le ciel. Nous sommes de sa nature, il nous a recréés à sa ressemblance. Il y a quelque chose en nous qui est une partie que Dieu a recréée. Nous avons cet esprit d'adoption qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Plus que des enfants de Dieu, des bébés en Christ, que nous sommes ceux que Dieu a mis au monde. Et lorsque, dans notre innocence, nous crions « Abba, Père », nous avons cette intimité avec le Père qui est dans le ciel, alors l'adversaire de nos âmes recule, et quand il recule, cela veut dire qu'il est vaincu. Ah, c'est bien là. C'était spontané. Si le chemin qui s'élève, le chemin qui monte, sur lequel nous devons renoncer à nous-mêmes en portant notre croix, si ce chemin qui s'élève devient par trop rocailleux, si ton pied trébuche au point de faire chanceler ta vie et de la faire tomber dans le royaume des ténèbres et des grincements de dents, laisse donc, mon frère, ma sœur, laisse donc l'Esprit de Dieu te rappeler que tu n'es pas un enfant des ténèbres, mais tu es un enfant de lumière. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude au péché, un esprit de soumission au péché, mais tu as reçu un esprit d'adoption qui te permet de crier au secours et d'appeler « Abba, Père ». Tu n'as pas à subir la loi du péché comme les enfants de colère de ce monde de perdition. Non, eux, ils ont Satan pour père, toi. Tu as « Abba, Père ». Tu as Dieu, tu as pour père celui qui est dans le ciel, tu as pour père celui qui est là-haut. Tu as Jésus pour frère. De quelle manière devons-nous appeler Dieu lorsque nous le prions? Devons-nous lui dire l'Éternel, El Shaddai, Adonai, Jéhovah? Vous savez, il y a je ne sais combien de dizaines de noms de Dieu qui sont dans la Bible. À Gethsémané, Jésus nous montre comment prier Dieu, comme un bébé qui ne sait pas encore dire non à son père. Voilà, peut-être une manière d'appeler Dieu du nom de papa, comme un enfant qui ne sait pas encore refuser la volonté de son père. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul nous affirme, nous montre que n'étant pas des croyants soumis à la loi de Moïse, nous ne sommes pas des serviteurs comme étaient tous ces gens extraordinaires de l'Ancienne Alliance, mais nous sommes des enfants qui pouvons appeler Dieu du nom de Abba, Père, parce que c'est celui qui les a vus naître de nouveau. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne sommes plus esclaves du péché pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus soumis à la loi, à la pression du péché, parce que nous sommes fils de Dieu. Et dans nos cœurs résonne ce cri venu du Saint-Esprit, un esprit d'adoption qui nous rappelle que Abba, Père, est notre Dieu. C'est vrai que notre Père Céleste occupe de grandes fonctions dans l'univers. Cependant, l'appeler par un de ses noms de fonction, le Créateur, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, nous range au rang de ses serviteurs. Seuls ses enfants peuvent l'appeler comme Jésus l'a appelé à Gethsémané, Abba, Père. Que le Seigneur nous donne de redevenir des petits-enfants, notamment dans notre prière. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que Tu nous rappelles encore la simplicité de notre position par rapport à toi. Ô Seigneur, nous ne voulons pas nous prendre pour de grandes personnes, mais nous voulons redevenir ces petits enfants et t'appeler avec les mots les plus simples de notre foi, et surtout dans cet esprit de soumission, d'obéissance à ta volonté. Nous te bénissons pour cela. Gloire à ton nom. Amen. Amen.